Bonsoir tout le monde. Nous inaugurons une série d'études sur ce qu'on appelle les Haggadot, c'est du Talmud. Les Haggadot talmudiques. De manière générale, le texte sur la... Vous m'entendez bien là-bas ou pas? Oui, très bien. Comment? Quoi? Bon. Hein? Vous m'entendez? Ça vous va comme ça? Ou vous voulez que les filles se mettent là-bas? Vous serez mieux? Comme vous voulez. C'est très bien comme ça. Bon. Le texte central sur lequel nous allons nous concentrer, de manière générale, ça sera le chapitre Chelek, qui est le 10e chapitre de Sanhédrin. Mais pour l'ouverture, je voudrais quand même faire avec vous un texte de Maseret Berachot qui me semble fondamental et qui est donc photocopié devant vous. On peut fermer la porte ou... Ça ne dérange pas. Bon. Ce texte est, vous est probablement connu partiellement. Parce qu'une partie de ce texte apparaît déjà dans un texte que vous connaissez, c'est la Haggadah de Pessah. Alors vous avez devant vous ici, dans le traité de Berachot, page 12b, Daf Yudbet Amudbet. Jusque-là, vous me suivez? Très bien. Bon. Eh bien, regardez dans la page de droite, hein, qui est donc 12b. À partir d'en bas, vous comptez 8 lignes. 8 lignes à partir du bas. Bon, alors, de quoi s'agit-il? Pour vous rappeler un peu, le Talmud est composé de deux sortes de textes. Mettez-vous à l'aise. Le fait d'être retardataire ne vous discrédite pas. C'est quand même simple. Bon. Allez, allez, allez. Tout le monde a un texte? Plus ou moins. Vous en avez plusieurs, là, non? Non. Une seule feuille suffit par personne. Hein. Ouais. Bon. Monsieur Azoulay, vous avez une feuille? C'est très très bien, je suis fier de vous. Bon, alors, comme je viens de rappeler, le Talmud est formé de deux sortes de textes. Il y a des textes qu'on appelle Halakha, il y a des textes qu'on appelle Haggadah. Les textes qu'on appelle Halakha ont pour objet ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, ça peut être tout le débat talmudique extrêmement détaillé, extrêmement fouillu, qui va amener finalement à la conclusion pratique. De manière générale, tout ce qui a trait à ce qu'il faut faire s'appelle halakha. Il y a par contre une autre sorte de texte qu'on appelle Haggadah, qui parle non pas de ce qu'il faut faire, mais de ce qu'il faut penser. Voilà. Les textes que nous allons étudier, de manière générale, sont des textes de Haggadah, c'est-à-dire qui nous parlent de la conception du monde, de la pensée de nos chachamim. Une petite remarque quand même s'impose. Quand les Chachamim parlent de pensée, ce n'est pas une pensée. Parce que quand on dit une pensée, en français, on entend par là une philosophie. La philosophie a pour origine le philosophe lui-même. Tandis que quand nos Chachamim parlent de pensée, en fait, ils expliquent la manière dont ils pensent la tradition. Or, la tradition a pour origine les prophètes. Et les prophètes sont les transmetteurs d'une parole, et donc ce n'est pas une pensée au départ. Donc nous avons ici une parole qui se manifeste sous forme de pensée, et c'est la littérature qu'on appelle Haggadah. D'accord? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Si ce n'est pas clair, il faut poser tout de suite des questions, parce que ça va se compliquer par la suite. Jusque-là, ça va? Vous avez compris, là? Alors sortez une feuille, vous avez une interro là maintenant. Hein, non? Bon. C'est noté. Mais non, les garçons, ils connaissent déjà la vanne, ça commence déjà à les fatiguer. Bon. Alors, je reprends ici le texte que nous avons ici devant les yeux. 8 lignes à partir du bas. Vous tombez sur des grosses lettres, hein, n'est-ce pas? Il y a écrit quoi en grosses lettres? À partir du bas. Matnitin. Matni, c'est-à-dire, c'est une abréviation de Matnitin, ça veut dire notre Mishnah. C'est un texte de la Mishnah, tout d'abord, qui par la suite sera commenté par, en araméen par la Gemara. Mais là, on commence donc par la Mishnah. La Mishnah commence par une halakha. Donc, je vous ai dit que c'était un texte de Haggadah, mais en fait, c'est un texte de Haggadah qui traite d'une halakha. Quelle est la halakha en question? Mazkirin yetziat mitzraim baleilot. On mentionne la sortie d'Égypte même le soir. Voyez-vous? De quoi parle-t-on? Ben, c'est très simple, il y a une mitzvah que nous devons faire deux fois par jour, c'est la lecture du schéma. Et le schéma est composé de trois passages. Le premier passage commence par le mot schéma. Le deuxième commence par Vehaya. Et le troisième commence par Vayomer, n'est-ce pas? Les deux premiers passages du schéma, nous les récitons deux fois par jour parce que la Torah nous dit expressément de le faire. Quand elle nous dit Vedibarta Bam, tu en parleras. C'est-à-dire, la Torah nous dit qu'il faut répéter ce qu'elle nous dit, et elle le dit Beshorbecha Uvkumecha, lorsque tu vas te coucher et lorsque tu vas te lever. Ce qui veut donc dire que deux fois par jour, il faut réciter, peut-être même comprendre, les deux premiers passages du schéma. Le problème, c'est pourquoi intervient le troisième passage. Où est-ce qu'il est dit dans la Torah qu'il faut réciter ce passage? Eh bien, c'est très simple. Ce passage parle des tzitzit, mais il parle, en fin de compte, de la sortie d'Égypte. « Ani Hashem Elohechem, Asher Otseti Etrem Eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Et donc, il y a un devoir de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de notre vie. Où est-ce qu'on sait qu'il faut se souvenir tous les jours de notre vie de la sortie d'Égypte? C'est écrit en toutes lettres. « Leman tizkor etiom tsetecha meeret mitzraim » afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte, « kol yeme hayecha » tous les jours de ta vie. Donc, ça veut dire que tous les jours, je dois citer un passage de la Torah qui parle de la sortie d'Égypte. C'est la raison pour laquelle nous lisons le troisième passage du schéma. Jusque-là, vous me suivez? Je vous assure que ça va aller de plus en plus compliqué. Donc, il faut que ce soit très clair dès le départ. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Après, vous comprendrez rien. Maintenant, pourquoi réciter ce passage deux fois par jour? Pour les deux premiers passages du schéma, la Torah nous a dit en toutes lettres, « Beshorbecha ufkomecha » à ton coucher et à ton lever. Mais pour ce qui est du troisième passage du schéma, la Torah ne nous a pas dit qu'il faut le réciter trois fois par jour, deux fois par jour, n'est-ce pas? Alors vous comprenez qu'il y avait un débat à l'époque de la Mishnah, à l'époque de nos sages, il y avait tout un débat. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous n'entendez pas? C'est très bien. Ils font un vacarme. Mais pourquoi est-ce qu'on peut fermer la porte? Incroyable, des gens qui étudient la Torah. Ça devrait être interdit. Ouf. Très bien, très bien. Nous remercions notre gabaye, docteur Markada, qui a bien voulu veiller à fermer la porte. Bon. Cela dit en passant, étant donné que c'est notre premier cours, vous avez ici également une collation qui est présentée. Et dont vous pouvez avoir la jouissance. Vous n'allez pas se déranger. Donc, vous pouvez vous imaginer que cette halakha a fait problème. Aujourd'hui, quand on a une halakha, c'est déjà définitif, on sait déjà la conclusion. Mais il y a eu tout un débat à l'époque de la Mishnah pour savoir si effectivement la mention de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le troisième passage du schéma, ça devait se faire une fois par jour ou deux fois par jour. Alors là, nous avons ici la Mishnah qui tranche dans le débat. Elle nous dit « Mazkirin yetziat mitzraim balelot ». Je reprends le texte, n'est-ce pas? On mentionne la sortie d'Égypte les soirs, ça veut dire même le soir. C'est-à-dire le matin, ça tombe sous le sens, mais le chidouche, l'innovation, c'est qu'on parle de la sortie d'Égypte même le soir. Bon, jusque-là, rien de très transcendant. On va voir tout de suite que ça va prendre des proportions gigantesques. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. C'est là que nous retrouvons la Haggadah de Pessah. Rabbi Elazar ben Azaria disait: Areani, Keven Shivaim Shana, je suis comme un septuagénaire. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais 70 ans. C'est-à-dire qu'il ne les avait pas. Vous savez quel âge il avait quand il a dit ça? Il avait 18 ans. N'est-ce pas? Mais il dit, j'ai comme 70 ans. C'est-à-dire, je suis plein de sagesse. Velo Zachiti, j'étais à Meritiat Mitzrayim Balelot, et je n'ai pas mérité que l'on récite la sortie d'Égypte le soir. C'est-à-dire, bien que mon opinion personnelle, dit Rabbi Elazar ben Azaria, mon opinion personnelle était qu'il faut dire le troisième passage du schéma, même le soir, mais je n'ai pas eu le mérite de voir que l'on décide, que l'on tranche la halakha dans ce sens, ad shederasha ben zoma, jusqu'à ce qu'intervienne l'interprétation de ben zoma. Qui est ben zoma? C'est un des élèves de Rabbi Akiva, qui lui a finalement tranché en faveur de la halakha, qui est que l'on lit le troisième passage du schéma, même le soir. Mais où a-t-il été chercher tout ça? Oui, il faut trouver quand même une preuve dans la Torah que le troisième passage du schéma est lu même le soir. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, « Le ma'an tizkor et yom tzetecha me'eret mitzrayim kol yemei hayecha » afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti du pays d'Égypte tous les jours de ta vie. Et là, vous avez quelque chose de très particulier, enfin de caractéristique du Talmud, c'est que quand il y a un mot en trop dans la Torah, c'est qu'il y a une loi qu'on en tire. Alors ici, il y a un mot en trop, c'est le mot « tout ». En hébreu, « kol ». Ça ?« Kol yemechayecha ». Tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. C'est quoi « tous les jours de ta vie » On aurait dû dire « les jours de ta vie ». Le mot « tout » étant trop, c'est donc qu'il vient rajouter quelque chose. Non seulement le jour, mais également ce qui n'est pas le jour. C'est quoi ce qui n'est pas le jour? La nuit. N'est-ce pas? C'est ce que dit ici la Mishnah. Yeme hayecha hayamim. Quand on dit les jours de ta vie, cela veut dire le jour. Kol yeme hayecha, mais quand on dit tous les jours de ta vie, halelot, cela vient inclure également les nuits. Donc, à cause du mot kol, Rabbi Elazar ben Azaria et ben Zoma ont décidé qu'il fallait également la nuit lire le troisième passage du schéma. C'est ce que nous faisons d'ailleurs tous les jours lors de la prière d'Arvit. Ça? Bon. Vahachamim omrim. Mais les sages disent, les sages qui ne sont pas d'accord avec ben Zoma, ceux dont l'opinion finalement a été réfutée, qu'est-ce qu'ils disent eux? Yemeh hayecha ha'olam azeh. Quand on dit les jours de ta vie, ça veut dire notre époque. Kol, mais quand on dit le mot kol, kol yemechayecha, cela veut dire les havi dimotaj mashiach, cela veut dire que même au temps messianique, on doit rappeler la sortie d'Égypte. Voilà. Est-ce que c'est l'annonce des temps messianiques? Ah non, pas. Bon. Alors donc, vous avez compris le principe? Les Chachamim ne sont pas d'accord avec ben Zoma, parce qu'ils pensent que le mot « kol » veut dire que même au temps messianique, il faut rappeler la sortie d'Égypte. Je vais tirer des conclusions de ce texte. C'est pour ça que il est très important pour moi que vous ayez bien compris ce qu'on a étudié. Vous avez bien compris? Tout à fait. Je vais tirer une première conséquence. D'après ben Zoma, au temps messianique, on ne parle pas de la sortie d'Égypte, ni le matin, ni le soir. Est-ce que ma conclusion est justifiée? Eh oh! Non, pourquoi pas? Si les rabbins qui sont opposés à ben Zoma disent que c'est grâce au mot « kol » que je sais que même au temps messianique, on va parler de la sortie d'Égypte, et que le mot kol est interprété par ben Zoma comme servant à autre chose, c'est pour nous dire que le soir aussi il faut lire le troisième passage du schéma, ça veut donc dire qu'il n'a pas de source pour nous dire qu'au temps messianique on lit le schéma, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai donc raison? J'ai raison. Non, c'est pas le schéma, c'est... le troisième passage du schéma. Oui. D'accord ? Ça veut donc dire que, c'est très bizarre ce qui est dit là, ça veut dire qu'il y a une mitzvah qui, au temps messianique, devient caduque. C'est quand même surprenant, non ? De là à la réforme, on n'est pas loin. D'accord ? Les réformateurs disent qu'il y a des mitzvot qui deviennent caduques. Comment se fait-il que les chachamim, les rabbins du Talmud, qui sont comme des orthodoxes, non ? Ils ont dit que viendra un temps où il y a une mitzvah qui sera abolie. Comment vous comprenez ça, vous ? Mais vous êtes d'accord d'abord, n'est-ce pas ? Que d'après Ben Zoma, à l'époque messianique, on ne lit pas le troisième passage du schéma. Petite question, oui. Pourquoi est-ce que Yemé Hayecha ? Ah, parce que lui, il dit que Yemé Hayecha, ça veut dire les jours et pas les nuits.
Il y aura des jours et nuits au temps messianique.
Oui, mais attention, il semblerait que même les Chachamim ont une raison de penser qu'on ne peut apprendre qu'on parle de la sortie d'Égypte au temps messianique que s'il y a un verset qui le dit expressément. C'est-à-dire que la question, en vérité, ne se pose pas seulement pour Ben Zoma, mais également pour les Chachamim. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont eu besoin de déduire d'un mot du verset qu'au temps messianique, on parlera de la sortie d'Égypte, comme si ça ne tombait pas sous le sens, comme si les mitzvot étaient annulés au temps messianique. Donc la question est double. Donc ta remarque est très juste. Qu'est-ce qui a permis de penser chez les Chachamim qu'au temps messianique, ce n'est pas évident qu'on parle de la sortie d'Égypte ? Alors là, je voudrais peut-être approfondir la chose pour vraiment comprendre l'esprit des Chachamim. À quoi sert de se souvenir d'un événement du passé ? Pourquoi est-ce qu'il faut se souvenir du passé ? Vous savez que le passé, ben c'est passé. Comme on dit en latin, alifat mat. N'est-ce pas ? C'est mort. Ce qui est passé, c'est passé. Alors pourquoi se souvenir des événements du passé ? Oui, non, mais la Torah nous dit dans plusieurs endroits de nous rappeler de tas de choses. Il y a des choses dont il faut se souvenir. Ce que Dieu a fait à Myriam, il faut se souvenir du jour du Shabbat, il faut se souvenir de la sortie d'Égypte, il faut se souvenir de la révélation du Sinaï. Il y a beaucoup de choses dont la Torah nous dit, il faut que tu te souviennes de ça. Comment ?
C'est parce que c'est un enseignement pour nous aujourd'hui.
Ça veut dire parce que ça a des conséquences. Quelles conséquences ça ?
Si je me souviens que je suis sorti d'Égypte, c'est différent.
Alors ? Qu'est-ce que ça peut vous faire que vous êtes sorti d'Égypte ? Dites-le-moi.
C'est la puissance d'Hachem qui a fait que...
Oui, ça a fait, oui, mais ça a fait une fois. C'était il y a longtemps.
Ça continue.
Alors, si ça continue, j'en suis témoin même aujourd'hui, donc je n'ai pas besoin d'un événement du passé. Vous y êtes presque, allez-y.
On n'est plus des esclaves.
Mais, d'accord. La liberté. Oui. Ah, c'est très intéressant. C'est comment ton nom ?
Élie.
Il a dit, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Ça veut donc dire que je me souviens du passé dans la mesure où ça me sert à arriver à l'avenir. Mais une fois que je suis arrivé au point d'arriver, eh bien, je n'ai plus besoin des préparatifs. C'est-à-dire, on peut comprendre dans l'esprit de la Guémara, le souvenir de la sortie d'Égypte, c'est ce qui nous permet un jour d'arriver au temps messianique. C'est parce qu'on est libre, comme vous l'avez si bien dit. C'est parce qu'on a eu une fois l'expérience de la liberté qu'on est capable de se préparer à un événement de libération encore plus grand. Mais ça veut donc dire qu'une fois qu'on y est arrivé, ça ne sert plus à rien ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on se souvient de quelque chose du passé tant qu'il y a un danger d'oubli. Par exemple, lorsque la roue a été inventée, vous savez que la roue, ça a été quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire des hommes. Ça a transformé toute la vie des hommes. Eh bien, je suis persuadé que les hommes préhistoriques faisaient une fête pour l'invention de la roue. Ils mangeaient des roues sucrées. Mais c'était en pierre. C'est pas comme aujourd'hui. D'accord ? Alors, aujourd'hui, vous avez le sphenge. C'est un résidu très lointain de ce minhag de l'époque préhistorique. Et donc, il fut un temps où la roue était célébrée. Quand est-ce que la fête de la roue a disparu? Lorsque il était évident qu'on ne l'oublierait pas. C'est-à-dire, tant qu'il y avait danger d'oubli de cette réussite technologique, alors il fallait le rappeler. Une fois que c'est intégré, plus besoin. Donc, au temps messianique, c'est-à-dire, si la Torah nous dit de nous rappeler de quelque chose, il est évident qu'elle nous dit de nous en rappeler tant que c'est nécessaire. Mais une fois que c'est plus nécessaire, parce qu'on est arrivé à un événement qui dépasse de très loin la sortie d'Égypte, alors il est même, disons, ridicule, sinon réactionnaire, de nous rappeler d'un événement du passé. Voyez-vous ? C'est-à-dire, c'est très important de comprendre que le judaïsme n'est pas passéiste. C'est du conservatisme. On veut se rappeler avec nostalgie des événements du passé. On s'en rappelle tant qu'ils sont nécessaires pour préparer l'avenir. Une fois que c'est fini, c'est fini. Et donc, il y a ici, du point de vue de Benzoma, c'est très logique. Il est absolument, de son point de vue, impensable que la Torah veuille qu'on se souvienne de la sortie d'Égypte au temps messianique. Pourtant, les Chachamim, qui ne sont pas d'accord avec Benzoma, pensent que oui, et ils amènent un verset pour le prouver. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une preuve. Vous voyez que ça va très loin, tout ça. Ça commence à être intéressant. Maintenant, la halakha est comme qui? Comme Benzoma ou comme les Chachamim? Tu dis comme Benzoma, tu dis comme les Chachamim. Qui est pour Chachamim? Qui est pour Benzoma? Majorité contre toi. La halakha est comme Benzoma. Comment? Qui? C'est vrai, il y a ici tout un problème. Mais le problème, c'est que la première ligne de la Mishnah dit « Maskirin itziat mitzrayim balelot ». On se rappelle de la sortie d'Égypte, même la nuit. C'est donc la halakha est comme Benzoma, contre les Chachamim. D'accord? Je pense que tu vas faire vite ce soir. Tu n'as pas encore fait. Bon, eh bien, quand tu vas faire Arvi, tu vas voir que tu vas dire le troisième passage du schéma. Donc, c'est que la halakha est comme Benzoma. Maintenant, petite question. Est-ce que c'est important de savoir quand est-ce que c'est les temps messianiques?
Oui, c'est important.
Non, c'est pas important. D'après les Chachamim, c'est pas important. D'après Benzoma, c'est important. Parce que du point de vue des Chachamim, rien ne change. C'est-à-dire, du point de vue des Chachamim, j'ai récité le troisième passage du schéma pendant tout le temps de l'exil, y compris, mais seulement le matin et pas le soir. Arrive les temps messianiques, je continue. C'est-à-dire, rien n'a changé dans mon rituel de prière, d'après les Chachamim. D'après Benzoma, arrive les temps messianiques, je dois changer le rituel. Donc, il est important pour Benzoma de savoir quand est-ce qu'arrivent les temps messianiques. Pour les Chachamim, c'est moins important. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il va y avoir une importance, disons, halakhique, légale, de définir de manière précise ce que l'on entend par un temps messianique. C'est-à-dire, quand est-ce que je peux considérer que je suis dans le temps historique qui justifie la modification du rituel? Ou bien, même non seulement qui la justifie, qui impose. N'est-ce pas? Donc pour Benzoma, c'est important. Jusque-là, vous me suivez? Vous voyez que cette démarche, elle va très loin. Et pourtant, elle ne fait que commencer. Bon, jusque-là, vous avez donc le texte de la Mishnah. Et puis là, nous allons rentrer dans la Gemara. Vous avez ici quatre lignes avant la fin. Vous avez en gros, il y a écrit Gem, ce qui veut dire Gemara. N'est-ce pas? Ce qui est révolutionnaire, comme disait Che Gemara. Et donc, vous avez ici donc le texte talmudique qui nous donne la suite du débat entre Benzoma et Chachamim. C'est-à-dire, dans la Haggadah de Pessah, le débat s'arrête ici. Mais vous avez ici, dans la Gemara, vous avez ici une tradition qui nous amène la suite du débat qu'il y a eu entre eux. Hein? Comment ça? Quoi? La Gemara? Non, non, pas du tout. Elle nous parle ici d'un débat qu'il y a eu entre eux. Nous allons voir. Tanya, on a enseigné. Amar lahem Benzoma la Chachamim. Benzoma a répliqué, a objecté au Chachamim. Est-ce que l'on mentionne la sortie d'Égypte au temps messianique? Vous comprenez l'interrogation, la stupeur de Benzoma. Vous allez encore vous occuper des choses du passé alors qu'on est déjà arrivé plus loin. Vahalo kvar ne'emar. Or, n'est-il pas dit C'est-à-dire, quand Benzoma dit une phrase pareille, n'est-il pas dit, cela veut dire qu'il va citer quelque chose, n'est-ce pas? Il va citer un verset, là c'est un verset de Jérémie, chapitre 23, Yirmiyahu Kaf Gimel, dans lequel il va prouver qu'au temps messianique, on ne parle pas de la sortie d'Égypte. Alors, je vais lire le verset, puisqu'il est cité, mais je vous demande, pendant que je lis le verset, de réfléchir à un problème. Si ce n'est pas trop difficile à la fois de lire et de réfléchir, vous pouvez? Bon. Où est-ce que le verset parle des temps messianiques? C'est-à-dire, où est-ce que les temps messianiques sont mentionnés dans le verset? Donc, je lis le verset. « Va'alok par Nehemar, n'est-il pas dit? Hine yamim ba'im neum Hashem. Voici que des jours viennent, parole de l'Éternel. Velo yomru od, on ne dira plus. Hay Hashem asher elad bnei Israël meret Mitzrayim, je jure par Dieu qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, c'est-à-dire cette formule de serment ne sera plus employée. Kim Hay Hashem, mais on jurera au nom de Dieu, asher ela va asher evi, qui a fait monter et fait venir, et zera bet Israël, la descendance de la maison d'Israël, mais eret Safona de la Russie, ou Mikola Aratzot Asheridar Timsham, et de tous les pays où je les ai dispersés. Donc on voit bien, d'après le prophète, que viendra un temps où on ne se référera plus à Dieu comme étant le Dieu de la sortie d'Égypte, mais on en parlera comme de celui qui a fait l'Aliya. L'Aliya de tous les Juifs du monde. N'est-ce pas? Bon, c'est très beau ce verset de Jérémie. Où est-ce qu'il est question des temps messianiques?
C'est ça les temps messianiques.
Ça veut donc dire que pour Benzoma, c'est quoi les temps messianiques?
C'est la réunion des Juifs.
C'est le rassemblement des exilés. Vous voyez?
La réunion de tous les Juifs.
Oui, et bien c'est ça. Ça veut dire que la définition du temps messianique d'après Benzoma n'est pas une définition mystique. C'est une définition, disons, sociologique, géographique, mesurable. C'est-à-dire, quand la Sornout aura fini son travail, pour Benzoma, il faudra changer le rituel de prière. On pourra raccourcir le schéma et rentrer plutôt à la maison. Aussi bien le matin que le soir. Vous voyez, c'est comment?
Non, je dis
c'est. Oui. vous aimez tellement pas la synagogue?
Non, je suis en train de penser le coup du changement de livre.
Oui. Il y a un problème, vous savez qu'il y a des brachot qu'on rajoute aussi. Par exemple, après le troisième passage du schéma, le matin, nous avons une bénédiction qui commence par Emet Ve'ativ et qui finit par Gaal Israël. Et le soir, nous en avons deux. Une qui commence par Emet Ve'emouna et qui finit par Gaal Israël et Ashkivenu. Ces brachot, ces bénédictions-là, elles sont la conséquence du troisième passage du schéma. C'est parce qu'on parle de la sortie d'Égypte. Donc vous avez ici trois bénédictions aussi qui sont supprimées. C'est-à-dire, non seulement vous aurez le troisième passage du schéma, mais vous aurez trois bénédictions à supprimer du Sidour. Hein? Comment? Ben parce qu'elles ne sont justifiées que par l'existence du troisième passage du schéma. Pourquoi est-ce qu'elles ont été instituées, ces bénédictions-là? Gaal Israël. Ben justement, parce qu'elles parlent de la sortie d'Égypte. C'est ce que dit la Gemara, dans un autre passage de Berachot. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses à raccourcir. D'accord? Le soir du Seder, il y aura une drôle de tête. Enfin bon. Il y a ici quelque chose qui est absolument incroyable. Maintenant, et donc on peut se demander, mais à partir de quel pourcentage est-ce qu'il faut changer le Sidour? 20% des Juifs, 80%, 100%? C'est pas très clair. En tout cas, le verset dans Jérémie n'est pas très clair. D'accord? Mais remarquez une chose d'ailleurs très importante, c'est le réalisme des Chachamim. Pour eux, le rassemblement des exilés, c'est plus grand que la sortie d'Égypte. C'est ce qu'ils disent, hein? C'est pas moi. En fait, c'est pas eux qui le disent, c'est Jérémie qui le dit. Mais en fait, c'est même pas Jérémie. Dans la Gada de Pessah, on le dit. Quand, après le Maguid, quand on a fini de lire la sortie d'Égypte, alors il y a une bénédiction dans laquelle on dit « Nous te remercions, notre Dieu, de nous avoir amenés ce soir au Seder, etc., pour manger le Corban Pessah. Et nous te prions de nous amener à Jérusalem pour chanter un nouveau chant encore plus grand, n'est-ce pas? On dit ça, Baruch Atah Hashem Gal Israël. C'est la bracha qui finit le Maguid. C'est-à-dire qu'il y a, chez les Chachamim, un réalisme historique très fort. Vous savez qu'il y a en France ce qu'on appelle l'histoire sainte. Vous connaissez cette expression? Il y a des manuels d'histoire sainte. Ça existait avant, dans les Talmud et Torah, etc. Hein? Oui, le manuel d'histoire sainte. Mais vous savez que c'est en fait un terme chrétien, histoire sainte, oui. Parce que s'il y a une histoire sainte, ça veut dire qu'il y a une histoire profane. Et d'après la Torah, c'est le contraire. L'histoire est sainte. Toute l'histoire. C'est-à-dire que les événements que nous vivons aussi, c'est de l'histoire sainte. C'est-à-dire on ne peut pas couper l'histoire en deux. Une partie de l'histoire qui aurait quelque chose à voir avec la sainteté, et une autre qui relèverait du profane. Pas du tout. C'est l'histoire dans son ensemble qui est la sainteté, c'est-à-dire qui est le lieu de révélation du Créateur à travers le projet de l'histoire. Maintenant, si on prend au sérieux ce que dit le prophète, et je pense qu'il faut le prendre au sérieux, c'est quand même un prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les événements que nous vivons de nos jours sont plus grands que la sortie d'Égypte. En quoi? C'est très simple. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes sortis d'un pays après 2 siècles. Et là, nous sommes sortis de 100 pays après 2 millénaires. Alors, qu'est-ce qui est plus grand? ça tombe sous le sens, en fait. Si on y réfléchit bien, nous vivons aujourd'hui des événements qui dépassent de très loin la sortie d'Égypte. À tel point que pour Benzoma, la sortie d'Égypte devient inutile. Elle ne peut plus remplir la conscience, le souvenir des Juifs. Voyez-vous? Maintenant, qu'est-ce que vont répondre les Chachamim à ça quand même? C'est pas si simple. Les Chachamim, ils sont pas d'accord avec Benzoma. Ils n'ont pas lu le verset dans Jérémie, eux. Ils ont lu. Voyons la réponse. Amroulo, ils lui ont répondu. Lo sheteaker itiat mitzram imekoma. Ça ne veut pas dire que la sortie d'Égypte sera déracinée. Remarquable cette phrase. Le verset dit qu'on ne dira pas, alors les Chachamim disent ça veut dire qu'on dira quand même. Vous comprenez? La logique des Chachamim, c'est très fort. Le verset te dit expressément on ne parlera pas de la sortie d'Égypte, et les Chachamim disent ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas de la sortie d'Égypte. Il faut comprendre la puissance des Chachamim. Pourquoi comment ils ont pu dire une chose pareille? Bon, on va voir. Et là, en vérité, l'indépendance politique sera l'essentiel et la sortie d'Égypte sera auxiliaire. Remarquez à nouveau ça. Pour les Chachamim, c'est vrai que le rassemblement des exilés c'est plus grand que la sortie d'Égypte. Ils ne remettent pas en question ce que dit Benzoma. Ils disent, mais c'est pas grand au point d'effacer la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte reste auxiliaire. Auxiliaire à quoi exactement? Oui, mais comment est-ce que les temps messianiques sont définis ici par les Chachamim? L'indépendance politique. Vous avez vu? Shi'abud malchuyot. Ça veut dire que, alors que pour Benzoma, nous avons une définition un peu floue, le rassemblement des exilés, alors on s'est demandé quel pourcentage. Pour les Chachamim, ce qui va définir le temps messianique, c'est s'il y a indépendance politique.
Il n'y a plus de pourcentage.
Plus de pourcentage. C'est avant et après. Avant indépendance, après indépendance. Vous avez compris? C'est très fort ce que disent les Chachamim. C'est-à-dire, pour les Chachamim, à partir du moment où advient dans l'histoire le rétablissement de l'indépendance politique des Hébreux, eh bien, c'est le temps messianique. À nouveau, vous voyez, c'est très fort aussi, que pour les Chachamim, il n'y a pas de définition mystique des temps messianiques. Parce que l'image d'Épinal, dans laquelle nous vivons, nous sommes imprégnés, c'est que les temps messianiques, c'est quelque chose d'un peu... Si vous voulez, c'est... Je sais pas, c'est comme quand on a pris un peu trop de LSD, je sais pas, on se sent... on s'envole, quoi, n'est-ce pas? Il y a une musique stéréophonique avec le Messie de Handel, Alléluia. Et, oui, c'est pas drôle, c'est très beau d'ailleurs, le Messie de Handel, hélas. On a un peu, disons, le sentiment d'être emporté dans un conte de fées, Peter Pan.
Mais on est en ce moment dans les temps messianiques.
Alors, mais tandis que vous voyez qu'ici, il y a une définition tout à fait, justement, tout à fait pragmatique, politique. Et donc, ce que vous dites là, c'est que, du point de vue de la définition de la Guémara, nous sommes donc dans les temps messianiques, n'est-ce pas? Maintenant, si Benzoma avait adopté la définition des Chachamim pour les temps messianiques, ça voudrait donc dire que depuis 1948, il fallait supprimer le troisième passage du schéma. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Non. Comment? Oui, justement. Oui, mais la est comme Benzoma. Mais est-ce qu'il est bien sûr que Benzoma ne définit pas de la même manière que les Chachamim? Parce qu'on voit bien qu'ils ne débattent pas entre eux de savoir quelle est la nature du temps messianique. Donc il n'est pas impossible que pour Benzoma, effectivement, l'indépendance politique et le rassemblement des exilés soient la même chose. Mais je vais vous dire un grand principe, qu'enseigne Manitou justement. Il y a parfois des choses qu'il faudrait faire, qu'on ne fait pas, pour ne pas provoquer de schisme. C'est-à-dire, tant que la majorité des étudiants de la Torah, si vous voulez, n'ont pas encore intégré ce que dit le texte, alors on ne peut pas les forcer. Mais en vérité, c'est ça qu'on devrait faire. N'est-ce pas? Bon, jusque-là, vous me suivez? Je vais approfondir. Je peux? Si vous avez des objections, il faut le faire, hein, vous savez, on est là pour ça. Hein? Oui? Ben, la dépendance politique, ben, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Attention, ça veut dire quoi on fait ce qu'on veut? Si. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je savais que vous allez le dire. Très bien. Ce qu'on appelle l'indépendance politique, du point de vue de la halakha, enfin c'est ce que dit Maïmonide en tout cas, c'est lorsque est rétabli ce qu'on appelle la malchut. Malchut, ça veut dire la souveraineté. Et du point de vue de la halakha, quand on parle de souveraineté, de malchut, il ne s'agit pas d'autarcie. C'est-à-dire, l'autarcie, vous savez, c'est un système politique, économique, dans lequel il y a une totale autonomie, sans possibilité d'influence de l'extérieur. C'est quelque chose de totalement utopique. C'est-à-dire, même les États-Unis, qui, d'après, je pense, l'opinion générale, sont indépendants. Les États-Unis sont indépendants, n'est-ce pas? Non, ils ne sont pas indépendants. Ils sont sous la dépendance économique et politique d'autres puissances. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu dans l'histoire d'État indépendant, si on va dans ce sens-là. Or, d'après la Guémara, il y a ce qu'on appelle les États indépendants et ça a des conséquences à l'Afrique. Par exemple, quand un État est souverain, du point de vue de la halakha, il a le droit de lever les impôts, il a le droit de faire la guerre. Non seulement il a le droit, mais les habitants du pays, les citoyens, ont le devoir de faire ce que dit le roi. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de tromper les impôts, ils n'ont pas le droit de ne pas partir à la guerre. Et du point de vue de la halakha, l'État d'Israël, en tout cas d'après la plupart des poskim, remplit cette fonction. Ça veut dire, pourquoi? Parce que d'après Maïmonide, il y a deux critères qui définissent un État comme étant indépendant. C'est le monopole de la monnaie et de la force armée. Effectivement, ces deux fonctions-là sont remplies par l'État d'Israël. C'est l'État d'Israël qui a le monopole de la force armée et c'est l'État d'Israël qui a le monopole de la monnaie.
Une question. Oui. Il y a une époque, il y a 15 ans ou autant, il y avait un député qui avait proposé que la monnaie soit le dollar. Là, on perdait la souveraineté.
Pas du tout. Non, parce qu'un État peut très bien accepter que sa monnaie soit le dollar. Mais il faudrait savoir d'où vient le fait que la monnaie est celle de dollar. Est-ce que c'est imposé par l'Amérique? Et dans ce cas-là, effectivement, on n'aurait pas eu l'indépendance. Ou bien est-ce que c'est voulu par l'État? C'est tout à fait autre chose. Est-ce que la France a cessé d'être indépendante parce qu'elle elle a pris l'euro?
Certains disent.
Non, je parle de la France quand elle était française.
Ah, d'accord.
Oui.
Ah oui, d'accord. Okay.
Oui. Vous savez que le français, c'est la plus grande langue arabe du monde. Et donc vous avez ici quelque chose de très important pour les Chachamim, en tout cas. Je pense que on a bien répondu à la question. L'événement de la fondation de l'État d'Israël, du rassemblement des exilés, enfin ce que nous sommes en train de vivre de nos jours, c'est un événement qui est d'une ampleur gigantesque, qui est en fait plus grand que la sortie d'Égypte. Oui?
D'un point de vue numérique, pour la supériorité des banques actuelles par rapport à l'Égypte.
Oui.
Là, je pense que d'accord, mais l'Égypte a quand même été le préalable
Oui.
Et voilà, déjà, il y a pas en plus pour la sortie d'Égypte pour l'instant.
On n'a pas l'impression que la Guémara soit préoccupée de ce que tu dis. C'est-à-dire, il y a une, nous sommes parfois, séduits par ce qu'on appelle la pensée religieuse. Mais ce n'est pas du tout la pensée de la Guémara. C'est-à-dire, cette idée que la sortie d'Égypte serait grande parce que c'est elle qui a permis de recevoir la Torah, c'est très étranger à la Guémara. La sortie d'Égypte, d'ailleurs, quand on voit dans la Torah, la motivation de la sortie d'Égypte, ce n'était pas le don de la Torah. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu à nos patriarches de nous donner Eretz Israël. C'est écrit en toutes lettres dans la Torah. Il faut lire. Vous savez, il y a un grand principe. Pour savoir ce que dit la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la Torah. Très bien. Or, quand on lit la Torah, on voit que la Torah elle-même dit que nous sommes sortis d'Égypte parce que Dieu avait promis la terre d'Israël à nos ancêtres. Et qu'il fallait donc qu'il accomplisse cette promesse. Au passage, on a reçu la Torah. Et le problème est de savoir pourquoi. C'est un sujet d'étude, ça. Pourquoi est-ce que nous avons reçu la Torah en sortant d'Égypte? Mais il n'est pas du tout évident, du point de vue du texte même de la Torah, qu'il y ait un lien organique entre les deux.
Dans la Haggadah,
oui,
dans la partie, vous savez, d'Ayenu,
oui,
on part de la sortie d'Égypte,
oui,
et par enchaînement, on passe par le nom de la Torah, Israël, et à la fin, on arrive,
oui, bien sûr,
au Beth-Amikdash.
Oui, bien sûr, parce que c'est le récit historique.
D'accord. Oui. Donc, en fait, aujourd'hui...
Oui, on est en route vers ça. On est en route vers
Beth-Amikdash.
C'est au milieu. Mais... C'est-à-dire que le Beth-Amikdash, c'est une valeur supplémentaire. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la Géoula, la Yemot HaMashiach, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de l'histoire. C'est-à-dire, la Géoula, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Et tant qu'on n'est pas arrivé à la Géoula, on n'est pas encore arrivé à la case départ. Tu comprends? Oui? Ah, ils la lisent mal. Écoutez, je ne me suis jamais préoccupé de ça. Non, jamais. Je vais dire une chose. Moi, je connais des gens qui, effectivement, sont préoccupés par ce genre de questions que vous posez. Mais comment se fait-il qu'il y a des tas de rabbins qui pensent que...
Non, comment se fait-il?
Qu'est-ce qu'ils pensent? Écoutez, ben, ils lisent pas. Je veux dire, par exemple, je rappelle, j'ai eu un débat, épistolaire avec un très grand rabbin en Israël autour de ce texte, justement. Alors on a dit, mais enfin, finalement, son argument final, c'était, mais on ne peut pas comparer la sortie d'Égypte à l'État d'Israël, quand même. Un jour, dans une lettre, il m'a écrit comme ça, très en colère, il m'a dit, si c'est comme ça, avec tes opinions, comme si c'était mon opinion, c'est le cas avec Gemara, avec tes opinions, on ira encore croire que la sortie d'Égypte, c'était comme Ben Gurion qui a fondé l'État d'Israël. Ben, pourquoi pas? Qui est-ce qui a permis de sortir d'Égypte? Qui c'est qui a autorisé à sortir d'Égypte? C'est Pharaon. Oui. C'est le Pharaon qui a été le fondateur du premier État juif. Rappelez-vous de ça. C'est ce que dit la Torah. Il y a eu 10 plaies d'Égypte. Pourquoi faire? Oui, mais pourquoi est-ce que Dieu a fait les 10 plaies? Pourquoi faire? Pas du tout. Il faut lire le texte de la Torah. À savoir, à nouveau, je reviens au principe. Pour savoir ce que dit la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Et que ce que dit la Torah? Que les 10 plaies d'Égypte, c'était pour que Pharaon dise partez. C'est ce qu'il y a écrit. Subsidiairement, ça montre la grandeur de Dieu. Mais dans le débat entre Dieu et Pharaon, c'est allez, libère-les, allez, libère qu'ils puissent partir. Comme si Dieu avait besoin, c'est inouï cette histoire, comme si Dieu avait besoin de l'accord de Pharaon. Il aurait pu dire allez, on s'en va. Comme quoi, c'est important que Pharaon y participe. Oui? Deux petites remarques. Je suis très content de vous poser cette question parce que je voulais que quelqu'un la pose. Deux petites remarques. Tout d'abord, il semblerait que d'après le Talmud et un texte dans le traité de Shabbat qui le dit en plus clair, quand un événement se passe avec des miracles, c'est moins bien que quand il se passe sans miracle. Tout d'abord. Alors c'est un grand principe. Le miracle bouleverse l'ordre de la création, ce qui est d'une certaine manière un peu blasphématoire parce que comme si Dieu avait mal créé son monde, il a besoin de faire des miracles. D'accord? Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, les Hébreux ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Il ne se rendait pas compte de la grandeur de l'événement. De même que nous aussi, nous ne nous rendons pas compte de la grandeur de l'événement parce que nous sommes en train de le vivre. Il y a un grand principe dans la Guémara. En ba'alanes makir beniso. Celui qui vit un miracle ne se rend pas compte qu'il vit un miracle. Parce que s'il se rendait compte de ce qui se passe, il deviendrait fou. Nous deviendrions fous si, à tout moment de notre vie, nous pouvions nous rendre compte de ce qui se passe. Mais viendra un temps où nos arrière-petits-enfants diront « Nos ancêtres étaient des géants. Ils ont vécu la sortie d'Europe. » Mais nous, on ne s'en rend pas compte. Il y a un texte très beau dans Avot de Rabbi Nathan qui parle de ce qui se passe lorsque Moshe a ouvert la mer aux enfants d'Israël. Alors il leur a dit, vous vous rendez compte, il y a les Égyptiens qui sont derrière, une armée qui veut nous massacrer. À droite et à gauche, il y a un désert avec des serpents et des scorpions. Et devant, il y a une mer houleuse. Hein, détresse terrible. Moshe lève le bras, la mer s'ouvre. Moshe dit aux enfants d'Israël, allez, entrez. Ils ont dit, comment ? Il y a de la boue ici. C'est écrit dans Avot de Rabbi Nathan. Et alors Moshe a prié et la boue a séché. Et il leur a dit, allez-y. On dit, oui, mais c'est pas plat. Et Moshe a prié et c'est devenu plat. Il leur a dit, allez-y. Ils ont dit, non, c'est plat, mais c'est glissant. Nous voulons que ce soit granuleux. Et Moshe a prié et le sol de la mer est devenu granuleux. Et ils ont dit, allez-y. Ils ont dit, non, non, on ne peut pas. Parce qu'on a besoin également qu'il y ait des barrières de tous les côtés pour chaque tribu. Et Moshe a prié, il y a eu des barrières. Il a dit, et alors vous allez... Non, mais on veut qu'il y ait des boissons et des fruits. C'est écrit dans le Midrash. Hein. Et Moshe a prié, il y a eu des boissons et des fruits. Il y a là-bas... Des quoi, des... Presque. Il y a eu là-bas... J'ai compté, hein, il y a 15 exigences des enfants d'Israël avant qu'ils acceptent de passer la mer. Je vais vous dire deux choses. D'abord, ça veut donc dire que lorsqu'on vit un événement de ce genre, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. On est dans la petitesse de ce qui se passe. Deuxièmement, je suis persuadé que cette histoire est vraie. Parce que c'était des Juifs qui étaient là-bas. D'accord ?
Qui existe et qu'on ne voit pas un exemple. Prenons le cas de Abraham avec Sodome et Gomorrhe.
Oui.
S'il avait eu Dieu,
oui.
La ville aurait été sauvée.
Oui, bien sûr.
Et personne ne l'aurait su.
Oui, bien sûr. C'est le miracle que la maison ne s'est pas effondrée.
Voilà.
Oui. Oui, bien sûr. Mais ça, si vous voulez, ce qu'on appelle miracle netto, si vous voulez, c'est le miracle qui transforme les lois de la nature. Il y a
dans
toutes sortes.
Le cas d'Abraham, c'était un oui. miracle, il n'y a pas. C'est la loi de la nature, la destruction. C'est l'inverse. Il n'aurait pas aidé toute personne.
D'accord, d'accord, je veux bien. Il y a des miracles de ce genre aussi, d'accord ? Et comme vous savez, un miracle, c'est toujours que la moitié d'un miracle. Et puis, donc, il y a le fait que nous vivons dans... C'est pas vrai ce que je dis ? Bon. Et donc, il y a que nous vivons une époque absolument incroyable, c'est-à-dire cette époque dans laquelle nous vivons finalement à la sortie d'Europe, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Maintenant, je vais vous dire... Je voudrais approfondir la chose, mais avant d'approfondir, je veux d'abord faire une petite déclaration. Vous me laissez, hein ? Notez la déclaration. Je suis contre que l'on mange du Hametz à Pessah. Voilà, fin de déclaration. Bon, je veux dire, c'est important parce que je veux dire quelque chose qui risque de vous troubler. Il y a aujourd'hui plus d'Israéliens qui font Yom HaAtzmaout que d'Israéliens qui ne mangent pas de Hametz à Pessah. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prophète a raison. Que c'est dans la conscience d'Israël, l'événement du rassemblement des exilés prend une plus grande importance que l'événement de la sortie d'Égypte.
Oui, mais il y a plus de gens qui ont voulu parler du couche captif que de gens qui...
Ça, c'est vrai. Et alors ? Mais alors ? Quel est le problème ? Je n'ai pas compris. Il y a plus d'Israéliens aux yeux marrons que d'Israéliens aux yeux bleus.
Non,
ah bon?
Un très
ensemble. Oui. Et alors? Mais est-ce que l'abandon du Gouche Katif, l'expulsion des Juifs de Gouche Katif, ça remet en question le fait qu'il y a une indépendance juive en Eretz Israël? Non. Hein?
Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non. Bah bon, Rachel. Oui, non, mais vous en faites pas. N'en faites pas. C'est promis, c'est juré. Non, c'est vrai, hein. Dieu a promis. Dieu a promis qu'il n'y aurait plus de troisième exil. Il n'y aurait pas de troisième exil, donc il n'y en aura pas. Point à la ligne. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas des problèmes, des malheurs, des catastrophes, etc. Ça, je ne dis pas. Mais si Dieu a promis, bah, il a promis. Hein, il doit tenir. Hein, je pense. Bon. Vous n'en faites pas. Moi, j'étais au Gouche-Katif. Hein. J'ai lutté pour. Mais ça n'a rien à voir. Bon, où en étions-nous ? Alors, à nouveau, bon, c'est très joli ce que disent les Chachamim. Je peux continuer là ? Je peux continuer. Bon. C'est très joli ce que disent les Chachamim, mais ça pose à nouveau un problème. Où est-ce qu'ils ont été chercher tout ça ? Parce que Benzoma, lui, sa lecture du verset, elle tombe sous le sens. On ne parlera plus de la sortie d'Égypte. Les Chachamim, eux, disent, on en parlera quand même un peu. Il faut le prouver. C'est-à-dire que, surtout que le texte du prophète est très net, il dit « on ne dira plus ». Alors, il faut que les Chachamim amènent une preuve que lorsque la Torah dit, ou quand le prophète dit « on ne dira pas », ça veut dire qu'on dira quand même. Alors, ils amènent un verset qui le prouve. « Kayotsebo ata omer ». De même, on dit, et là il y a un verset de Bereshit. « Lo yikare shimcha od Yaakov ki im Israël ». Ton nom ne sera plus dit Jacob, mais Israël. Et pourtant, notre ancêtre, on continue à l'appeler Yaakov, bien qu'il a changé de nom, et bien que Dieu ait dit en toutes lettres qu'on ne l'appellera plus Yaakov, et pourtant on l'appelle Yaakov. Ça veut donc dire que quand on dit « on ne dira pas », ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas. Ça veut dire qu'il y a un essentiel et un auxiliaire. « Ki Israël yeshemecha, lo sheyaaker Yaakov yukumo » Là, nous passons donc à la page 2. Gauche, ça ne veut pas dire que Yaakov sera déraciné de son lieu. Et là, Israël, Icar, mais c'est que le nom Israël sera l'essentiel. Ve Yaakov t'appelle l'eau et Yaakov lui sera associé. Bon, pourquoi est-ce que les Chachamim ont amené ce verset ? Pour l'instant, c'est purement formel. C'est pour prouver qu'on peut lire un verset qui dit on ne dira pas, et ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas. De même qu'on a vu pour Yaakov et Israël, que même quand la Torah nous dit qu'on ne dira plus Yaakov, ça, on le dit quand même. Maintenant, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un parallèle entre eux ? Ça semble vouloir dire, en tout cas, qu'il y aurait un parallèle entre les identités Yaakov et Israël et l'identité avant de l'exil et du temps messianique. Et je vais approfondir. Je peux approfondir ou vous avez du mal déjà à assimiler ? Hein ? Je peux continuer ou pas ? Je peux ou pas ? Ouais, je peux. S'il y a des objections, il faut le dire. Pas garder pour soi après dire, bon, je vais aller dire à mon rabbin à Sarcelles qu'il y a quelqu'un qui a dit ça. Non. Il faut voir si c'est vraiment, si ça tient ou si ça tient à la route ou pas. Je prends Sarcelles comme exemple. Ça peut très bien être ailleurs. Bon. Ça peut être à Créteil, n'importe où. Et donc, y a ici une allusion au fait que l'identité hébraïque se transforme lors de la Géoula. Il y a un temps qui est le temps de l'exil pendant lequel nous sommes appelés essentiellement Yaakov, et puis vient un moment, le moment du retour, où Yaakov devient Israël. De même que notre ancêtre, lui, s'est appelé Yaakov avant de revenir en Eretz Israël. Quand il revient, son nom est transformé, il devient Israël. Cela veut donc dire qu'il y a une dimension de petitesse. Yaakov, ça veut dire le tordu. Et Israël, ça veut dire le redressé. Yachar. Yachar, elle. Droit devant Dieu. Dans quel sens ? Ben, ça veut dire que pendant l'exil, on est courbé. Et quand on sort d'exil, ben, on est redressé. Être courbé, ça veut dire que l'identité est une identité religieuse. C'est-à-dire que le judaïsme, c'est une religion. C'est-à-dire qu'il y a le judaïsme, et qu'est-ce qu'il y a à côté ? Ben, il y a le christianisme et l'islam. Quand on revient en Eretz Israël, on découvre qu'on est Israël, ça veut dire qu'on est une nation. Et donc il y a Israël, qu'est-ce qu'il y a à côté ? Eh bien, les Français, les Arabes, les Norvégiens, etc. C'est-à-dire que c'est une identité nationale par rapport à une autre. C'est ce qu'on appelle la carte d'identité israélienne. Donc, il y a tout un rôle, d'ailleurs, dans la société israélienne, de savoir comment définir le juif. est-ce que le juif, c'est un ressortissant de la religion juive ou est-ce que c'est un ressortissant de la nation juive? Et les deux définitions semblent se repousser l'une l'autre. Ça s'appelle Yehudi, Megaresh, Yehudi. C'est-à-dire il y a un juif qui en renvoie un autre. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si justement tout ce qui s'est passé l'année dernière avec Gouche Katif, c'était un peu autour de ça justement. C'est-à-dire de savoir comment se définit la société israélienne. Tout un débat. Par exemple, il y a un endroit que vous allez certainement voir cette année, je vais en parler avec le Rav Atoun, c'est indispensable. Vous connaissez le musée de la diaspora, le Beit HaTfutzot? À Tel Aviv, oui. Vous ne connaissez pas? C'est un musée unique au monde. C'est un musée sans antiquité. Entièrement en carton-pâte. Avec des figurines, des machins, mais rien d'ancien. C'est un musée, son nom le dit bien, c'est un musée de la diaspora. Ça veut dire que est venu un moment où l'État d'Israël a décidé de faire un musée pour l'exil. Quand on fait un musée pour quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que si on a décidé d'en faire un musée, c'est qu'on considère qu'on est à une autre époque. Mais ça veut dire aussi autre chose. Un musée, c'est... Qu'est-ce qu'on met dans un musée? Des choses importantes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'Israël considère que Yaakov, c'est fini, mais il veut quand même s'imprégner de Yaakov. C'est l'opinion des Chachamim. C'est-à-dire Israël est l'essentiel, mais Yaakov lui est associé. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes passés de l'identité Yaakov à l'identité Israël. En fait, en vérité, je vais vous dire, nous avons toujours été une nation sans le savoir. C'est-à-dire, nous avons menti aux Goïm pendant des milliers d'années, nous leur avons dit nous sommes une religion. Mais en vérité, nous savions très bien que nous étions une nation en exil. Mais étant donné que nous n'avions pas de cadre national dans lequel nous pouvions nous exprimer, alors on agissait à la manière d'une religion. Est-ce que là vous me suivez? Je vais raconter une petite histoire. Je peux vous raconter une histoire? Une histoire. Un jour, on m'a demandé de parler devant des ecclésiastiques. Des ecclésiastiques francophones. Comment? Ben, ça veut dire des curés, des bonnes sœurs. Voilà. Hein. Des chrétiens, quoi. Avec le machin, comme ça, tous ces trucs-là. Bon. Alors, c'est des hommes d'église et des femmes d'église qui venaient étudier la Torah d'Eretz Israël pendant un an à Jérusalem. Un peu comme vous, quoi. Bon. Et je leur demandais de quoi est-ce que vous voulez que je vous parle? Monsieur le rabbin, vous allez nous parler. Vous savez, c'est toujours ce ton comme ça. De la signification religieuse de Yom HaAtzmaut. Bon, je leur ai dit, écoutez, pas de problème. Je leur ai parlé pendant 2h30. Ils ont connu leur douleur. Je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas... J'ai commencé mon discours de cette manière. Je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas de signification religieuse à Yom HaAtzmaut. De même, qu'il n'y a pas de signification religieuse à la fête de Pessah, ou de Shavuot, ou le Shabbat. Et d'ailleurs, il n'y a pas de signification religieuse à aucun des commandements de la Torah. Parce que tous ces commandements sont des commandements de Dieu à son peuple, pas à sa communauté religieuse. C'est donc national. Alors évidemment, ça fait un grand choc. Et alors, ils ont posé beaucoup de questions. Des questions telles que, oui, mais c'est un état dans lequel on transgresse le Shabbat, il n'y a pas de tzniout, et puis d'ailleurs, il faut attendre le Mashiach, et il y a des rabbins qui ne sont pas d'accord. Et toute une série d'arguments en charédim comme ça que j'ai entendu. Maintenant, j'ai compris d'où ça venait, enfin bon. Et enfin, voilà, tout ça, ils ont... Mais enfin, vous comprenez que, de leur point de vue, c'était très difficile à admettre. Mais je leur ai expliqué que, en fait, toute la tension ce qu'il y a entre religieux et pas religieux, les chilonim, datim, etc., ça n'aurait jamais existé, cette tension, si dès le départ on avait compris que les mitzvot sont des actes nationaux. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'il y a deux mitzvot qui sont des lois de la Knesset et que personne ne remet en question. La première, c'est que la langue officielle de l'État d'Israël, c'est l'hébreu. Or, c'est une mitzvah de parler l'hébreu. Ouais, déjà on a pas, hein? C'est exactement la même chose. C'est ce que dit le Rambam. Le Rambam dit que l'hébreu évolue. Il le dit dans son commentaire de la Mishnah. Texte peut-être ignoré par certains rabbins qui, je ne sais pas. Enfin, moi. En tout cas, le Rambam dit que la langue évolue. Il a même des preuves de cela, d'ailleurs, le Rambam. Il y a un Yerushalmi qui le dit. Et puis, que le jour chômé en Israël, le jour où on ne fait pas d'affaires, c'est le Shabbat. Alors que dans tout le monde éclairé, c'est le dimanche. Comment se fait-il que personne ne se révolte contre ça? Que répondrait à cela un député de la Knesset anti-religieux? Eh bien, il dira, c'est très simple. L'hébreu, ce n'est pas une affaire de religion, c'est une langue nationale. Le Shabbat, ce n'est pas un truc de religion, c'est le jour de repos des Juifs. Et c'est la même chose. Et les téphilines, alors? Ben, ce n'est pas une religion. Les téphilines, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la libération nationale. Et ainsi de suite. N'est-ce pas? Oui?
Les sacrifices, c'est quand même la religion?
Pas du tout. Ben non, pas du tout. La religion, je vais vous dire tout de suite de quoi ça parle. La religion, c'est... je donne deux éléments de définition de la religion. La religion, c'est ce qui concerne l'individu, et ça va de bas en haut. C'est-à-dire, c'est un élan de l'homme vers Dieu. Et ça concerne l'individu.
Notamment pour les mitzvot.
Oui, non. Toute religion propose une série d'actions qu'il faut faire, et ces actions sont considérées comme des actes individuels qui amènent le Olam Haba, par exemple. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas l'homme qui s'adresse à Dieu, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Il ne s'adresse pas à l'individu, mais à la collectivité. Par exemple, avant de faire une mitzvah, on dit « Asher kidesha nous ». Il nous a sanctifiés, pas « il m'a sanctifié ». Vetiva nous, il nous a ordonné. C'est qui nous? C'est la collectivité, pas l'individu. C'est-à-dire que la manière dont est vécu le commandement dans la tradition d'Israël, c'est pas du tout comme un acte religieux, mais comme un acte national. C'est la conséquence de mon appartenance à la nation d'Israël qui fait que je dois faire la mitzvah. Hein? Quoi?
Il y a de la spiritualité.
Évidemment, la spiritualité, ça ne veut pas dire de la religion. C'est-à-dire, il y a une spiritualité dans la nation d'Israël.
Donc la spiritualité qu'on ressent en faisant une mitzvah, une prière, manger un fruit, c'est pour la nation.
C'est à ce niveau-là que ça se passe, évidemment. D'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres dans la Torah. Quand Dieu choisit Abraham, il lui dit, je vais faire de toi une grande nation. C'est ce qu'il lui dit. Ce qu'a décidé le christianisme, c'est d'en finir avec cette idée de nation, et de revenir à l'individualité. C'est-à-dire que, si vous voulez, le christianisme, c'est Israël transformé en religion. Bon, revenons donc à nos moutons. J'espère que je ne dis pas des choses trop explosives. Je dis des choses qui sont écrites dans toutes lettres, noir sur jaune dans la Guémara. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces textes. D'accord? Je m'abrite derrière le texte. Alors, je n'ai pas d'opinion personnelle. Maintenant, continuons le texte. Et là, vous allez voir que ça se complique de plus en plus. Vechen ou Omer, on dit de même. Altizgeru Rishonot. Là, on amène un verset d'Isaïe. Alors, le verset d'Isaïe est assez compliqué. Je vais vous le lire d'abord par cœur. Après, vous allez voir comment c'est lu dans la Gemara. Altizkeru rishonot vekanmoniot altidbonanu inenir oser hadasha atatitzmar. C'est-à-dire, ne vous souvenez plus des premières choses, ni des événements de l'Antiquité, car je fais une nouvelle chose qui maintenant va croître. Alors que dit la Guémara ? Altizkiru Rishonot, ne vous rappelez plus des premières choses. Zeshi Abud Malchuyot, c'est-à-dire l'indépendance nationale. Vekadmoniot Altidbonanu Zoitiat Mitzrayim, ne vous rappelez pas des choses antiques. Ineni Anser Hadasha Atatitzmar, que je vais faire quelque chose de nouveau qui maintenant va croître. Alors remarquez, c'est quelque chose d'absolument terrible ce que dit la Guémara. Elle dit que va venir un troisième événement tellement important que ça va effacer de la mémoire nationale aussi bien la sortie d'Égypte que la fondation de l'État d'Israël, tellement ça sera grand. De quoi ça parle? Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme ça la proportion. C'est-à-dire, si on a dit que le rassemblement des exilés, c'est plus grand que la sortie d'Égypte, eh bien, il y a un troisième événement qui sera encore plus grand que les deux à la fois. C'est quoi? Tané Rav Yosef enseignait, Zo Milchemet Gog ou Magog. Il s'agit de la guerre de Gog et Magog. Ah bon? La guerre de Gog et Magog, c'est tellement grand. Parlez-en à Ahmed Hadjad. Il sera intéressé par ce texte. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement grand dans la guerre de Gog et Magog? Parce que si c'est vrai ce que dit la Guémara, et c'est probablement vrai puisque c'est la Guémara qui le dit, ça veut dire que cet événement doit nous transformer notre identité encore plus. C'est-à-dire, si on est passé de Yaakov à Israël, maintenant on va passer de Israël à quoi? Vous dites les korbanot tous les matins, évidemment. Et on dit que tu as aimé notre ancêtre Yaakov, et tu l'as changé son nom en Israël et Yeshurun. C'est-à-dire qu'il y a une troisième identité qui doit naître. Non seulement Yaakov et Israël, mais une troisième, Yeshurun. Quelle est la différence? Yaakov, c'était une identité religieuse, c'est-à-dire qui concerne l'individu. Israël, c'est national, donc ça concerne la collectivité. Qu'est-ce qui peut être plus grand que ça? L'humanité. C'est-à-dire que vient un moment dans l'histoire d'Israël où nous commençons à remplir une fonction universelle, ce qu'on appelle les prêtres des nations, Kohané Hashem. Mamlechet Kohani Mugoy Kadosh. Et effectivement, c'est le contenu de ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog, vous connaissez, c'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38. Là-bas, il est question d'une guerre à l'échelle planétaire. Toutes les nations du monde viennent faire la guerre à Israël. Et le résultat, c'est quoi? Je serai grandi et sanctifié aux yeux de nombreuses nations, et ils sauront que je suis l'Éternel. N'est-ce pas? Donc vous voyez ici, à nouveau, le réalisme politique des rabbins du Talmud. Pour eux, il y a ici un projet qui doit se réaliser dans l'histoire de transformation du monde à travers Israël. Mais cette transformation du monde à travers Israël implique une transformation de l'identité d'Israël. On passe de Yaakov à Israël et d'Israël à Yeshurun. C'est ça? Voyez. Kayot Mashal Lema Adavardome, à quoi cela peut-il ressembler? Le Adam Sheyam Mealer Baderer ou Fagabo Zeev. À un homme.
Mais pas seulement d'Israël alors, des autres peuples aussi.
Comment ça, les autres peuples?
Il y aura une transformation des autres peuples.
Oui, à travers la confrontation avec Israël. C'est-à-dire que nous remplissons une fonction importante dans la conscience collective des hommes. Pour eux, c'est très important ce que nous sommes. C'est-à-dire, comme disait Balitou dans le film que vous avez vu d'ailleurs l'autre jour, qu'une fois un laïc français lui a dit « Bon, vous savez, je ne crois pas à toutes ces histoires-là de l'Église, mais pourquoi vous l'avez crucifié ?» C'est-à-dire, pour eux, c'est important. Bon. Machal Lema Davardome, à quoi cela ressemble-t-il? Les Adam Shem Aler Baderer, un homme qui marchait sur la route, ou Fagabo Zeev, et il a rencontré un loup. Venitzal Mimenu, il en a été sauvé. Vayam et sa père Veoler Marse Zeev, alors il allait en racontant l'histoire du loup. Ça s'appelle le petit chaperon rouge. C'est-à-dire, si vous voulez, la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, le loup en question, c'est le pharaon. C'est l'Égypte. Fagabo arrive et Nitzal Mimenu. Il a rencontré un lion, il en est sauvé. Aya, mais sa père voler Maseari. Alors il racontait l'histoire du lion, l'histoire du loup, il a oublié. C'est-à-dire, le lion, c'est qui ici? C'est l'Empire britannique. C'est-à-dire, nous sommes sortis de la domination britannique. Vous savez que le symbole de l'Empire britannique, c'est un lion. Pagabo Nahash, Vinital Menu, puis il rencontre un serpent. Il en est sauvé. Shachar Maseshnem, il a oublié l'histoire des deux premiers. Vaya mesaper veoler maaseh nachash, il allait en racontant l'histoire du serpent. Afkar Israël, de même pour Israël, tsarot acharonot, les derniers malheurs, mais shakechot et tarishonot font oublier les premiers. Les dernières aventures font oublier les premières aventures. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a ici tout un... À travers un détail de halakha, vous voyez à quel point maintenant un détail d'halakha peut être important. Comment est-ce, qu'est-ce qu'on fait le soir lors de la lecture du schéma? Est-ce qu'on lit le troisième paragraphe ou on ne lit pas le troisième paragraphe? Vous comprenez qu'il y a ici, derrière tout ça, un monde, toute une conception du monde, des conceptions du monde qui se confrontent l'une à l'autre. D'accord? Donc, ne méprisez pas les détails de la halakha. Voilà. Eh bien, comme il y a une petite collation, alors il nous reste quelques minutes avant Arvit, alors vous pouvez vous précipiter dessus. À 10h, il y a ici un minyan de Arvit pour ceux qui le veulent. À bientôt. Maintenant, je tiens à rappeler, la semaine prochaine, je ne suis pas là parce que